On nous dit que le roi Salomon avait fait des sermons sur tous les végétaux, sur les arbres et aussi sur tous les animaux. Et j'ai donc voulu imaginer ce qu'aurait pu être le sermon de Salomon sur l'abeille, ce petit animal qui a un rôle assez considérable dans la Bible, avec évidemment le produit qu'elle fabrique, qui est le miel. Alors quand on réfléchit à cela, d'abord dans l'immédiat, on se rend compte que l'abeille, évidemment, a été utilisée, la pauvre, depuis des siècles, pour essayer de justifier des positions un petit peu morales ou moralisatrices. En particulier, elle a été considérée comme un modèle social, et cette image de la société idéale dans laquelle chacun donne de sa vie pour la communauté d'une façon si bien organisée a été vue comme un modèle de notre propre société. Surtout que, autrefois, jusqu'au XVIIIe siècle, je crois, on pensait que la reine des abeilles était un roi, et donc on imaginait la société bien organisée autour d'un roi, et évidemment que les prédicateurs du Moyen-Âge s'étaient pris à plaisir l'idée de dire, vous voyez, l'Église doit être organisée comme une magnifique ruche, organisée autour du pape, qui lui seul donne la fécondité à l'ensemble, et c'est lorsque tout le monde est bien soumis à ce pape, à ce roi, à cet évêque ou à ce père abbé, que la communauté fonctionnera bien. Je ne suis pas certain qu'il faille trouver des exemples dans tous les mécanismes de la nature pour la société humaine, et donc je n'irai pas plus loin dans ce type d'argument. On a voulu évidemment aussi prendre l'abeille comme un modèle moral. Chaque individu qui travaille pour le bien collectif, prêt même à se sacrifier pour défendre le groupe, tout cela est remarquable. Mais nous ne sommes pas des abeilles. Et d'autre part, cela peut aller aussi très loin, puisque on a même utilisé ces pauvres abeilles pour défendre le modèle communiste. En effet, dans une ruche, aucune abeille n'est payée. Chacune travaille gratuitement pour la collectivité, et finalement, sans réclamer de salaire. Et donc finalement, on fait un petit peu ce qu'on veut de ces modèles naturels. Là où ça m'intéresse plus, c'est que toutes ces façons un peu moralisatrices d'utiliser un modèle naturel ont pu parfois être perverties d'une façon intéressante. Et là, ça commence à m'amuser un peu plus, parce que je n'aime pas faire la morale. Et c'est un exemple de cela est une fable que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les abeilles de Mandeville ». Donc Mandeville, c'est un philosophe du 19e siècle, je crois, qui a, à partir du même modèle des abeilles, défendu justement ce qui est tout à fait immoral, ce qui me semble intéressant. En effet, Mandeville dit, dans une ruche, finalement, ce n'est pas du tout ce que vous dites. Les abeilles n'ont aucune générosité. Elles le font chacune selon sa propre nature, et ce n'est que l'adjonction de ce qu'elles font naturellement, sans réfléchir, qui fait que ça fonctionne. Et donc, Mandeville en a déduit que dans la société, c'est la même chose, et que finalement chacun participe à la société avec ce qu'il est, bon ou mauvais, et que même ce qui est mauvais chez certains individus, finalement contribue à faire fonctionner la société, parce que la société n'est pas faite que de gens généreux. Alors l'exemple qu'il donne, c'est le libertin, qui évidemment est condamnable moralement par son attitude dissolue, mais néanmoins le libertin fait beaucoup de bien à la société, parce que toutes les fêtes qu'il organise coûtent très cher et donc font fonctionner l'économie et donnent du travail à des tas de gens. Et quand il s'achète des bijoux et des choses inutiles, il permet à des ouvriers de travailler. Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, si on se disait, tiens, finalement, on aimerait que dans la société, tout le monde devienne honnête et gentil du jour au lendemain. Économiquement, ce serait une catastrophe. Parce que si tout le monde devenait gentil, il faudrait licencier tous les policiers, tous les CRS, toute la gendarmerie. Il faudrait enlever tous les feux rouges au croisement des rues. Et il faudrait aussi fermer toutes les prisons. Et donc ça ferait une catastrophe économique et une catastrophe sociale. Donc finalement, même le voleur, d'une certaine manière, sans le savoir, contribue au bon fonctionnement de la société. Cette fable de Mandeville est intéressante parce que elle est subversive, évidemment, mais en même temps, elle n'est pas tout à fait idiote, parce que d'abord, c'est assez juste ce qu'il dit, jusqu'à une certaine limite, et on pourrait aussi l'attribuer à notre propre existence, en pensant que dans notre vie, finalement, ce qui nous fait du bien n'est pas que ce qui est agréable et bon, et que finalement, même ce qui parfois nous contrarie, ou même ce qui est mauvais a priori pour nous, finalement, nous permet aussi de nous construire. Parce que justement, c'est ça la grande découverte, je crois, de Mandeville, c'est que dans une société, comme dans une ruche, comme dans une vie, tout n'est pas homogène. Et il y a des tas de choses différentes qui font en sorte qu'il y ait un équilibre. Et je crois que dans nos existences aussi, il y a de la douceur et il y a des épreuves, il y a du bien, il y a du mal, et que c'est l'ensemble de tout cela qui peut arriver à créer quelque chose de positif pour peu que l'on trouve une sorte de cohérence. Alors c'est là où j'irai peut-être plus loin que Mandeville, qui, alors je ne sais pas, je n'ai pas assez étudié, je pense qu'a priori Mandeville ne... Je ne sais pas s'il se préoccupe du rôle de la reine, mais je dirais pour moi que, en fin de compte, dans notre existence, il y a des tas de choses très diverses qui arrivent, et que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une bonne reine. C'est-à-dire qu'il y ait une seule... Il y a 50 000 abeilles dans une ruche, mais il y en a une qui fait en sorte que l'ensemble fonctionne bien, et c'est la reine. Et là, puisque je suis lancé dans les paraboles un peu tirées par les cheveux, je dirais que dans notre vie, c'est pareil, notre vie est pleine d'abeilles de différentes sortes, des bonnes et des mauvaises, des piquantes et des pas piquantes, et tout cela peut fonctionner s'il y a quelque chose qui met de l'ordre et de l'harmonie là-dedans. Et que ça, c'est la foi. La foi, c'est ce en quoi l'on croit, qui permet de redonner du sens à l'ensemble et de réorganiser l'ensemble pour que l'ensemble se tourne d'une façon positive. Si on mélange... des abeilles sans reine, elles vont se taper dessus et s'autodétruire, hein, en quelque sorte. Et donc j'aime cette idée qu'il faut qu'il y ait dans une existence un système régulateur qui permette de donner du sens à ce qui a priori n'en a pas. Et ça me plaît assez. Mais dans le cadre, je dirais, de l'utilisation moralisatrice de ces colonies, les pères de l'Église ont fait encore mieux. On trouve en particulier un sermon de saint Augustin entièrement consacré à l'abeille. Les spécialistes disent que c'est pas de lui. Ça m'arrange parce que j'ai beaucoup de respect pour saint Augustin et ça m'aurait embêté qu'il s'abaisse à cela. Et lui, alors il disait, les abeilles c'est merveilleux, c'est l'image de l'Église parce qu'elle travaille à faire de la cire, ça sert à faire les cierges. Alors là, en bon calviniste, je n'aime pas les bougies, donc on n'en met pas. J'ai pas besoin de cierges ni de cire. Et puis que il croyait à l'époque que la reine se reproduisait sans fécondation, c'est-à-dire qu'on croyait que les abeilles se reproduisaient par reproduction virginale, en quelque sorte, comme la Vierge Marie, voilà, puisqu'il ne savait pas que la reine, en fait, allait se faire féconder, je ne sais pas où, par des mâles de passage, ce qui est pas bien du tout. Et puis, d'autre part, évidemment, l'image de cette communauté, qui est l'image de la communauté religieuse et des moines et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai continué à chercher chez les pères de l'Église. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant, c'est chez Clément d'Alexandrie. Là, ça commence à m'intéresser un peu plus, parce que lui dit, finalement, les abeilles vont faire leur miel en allant chercher, en allant butiner à plein de sources différentes. Et elles vont prendre le meilleur et elles le rassemblent pour en faire quelque chose de merveilleux. Et Clément d'Alexandrie disait, eh bien vous voyez, pour la théologie, ou pour sa propre pensée, il faut faire pareil. Il faut aller chercher à diverses sources, et il faut aller butiner, si vous voulez, à gauche et à droite, pour ramener le meilleur et se faire son propre miel. Alors Clément d'Alexandrie en allait plus loin en disant qu'il faut chercher non seulement dans les évangiles, mais aussi chez les philosophes, chez les penseurs antiques, ou chez d'autres, pour essayer d'en faire quelque chose de cohérent. Et j'aime cette idée, personnellement, que je trouve très, j'allais dire, très protestante, en disant « chaque croyant est une abeille qui doit aller butiner et se faire son propre miel. Et donc, frères et sœurs, promenez-vous. Là, je vous donne un hectare, je ne vous demande pas d'en faire votre propre miel, prenez un peu ici, la semaine prochaine, allez dans une autre paroisse, écoutez autre chose, prenez à chaque fois ce qui est bon pour vous, et ce qui ne vous intéresse pas, mettez-le de côté. » Parce qu'une abeille, quand elle se promène, si elle voit une crotte de chien, elle ne passe pas son temps dessus en disant « mais quelle horreur, que ça sent mauvais, que c'est pas bon, que c'est désagréable, que ça devrait être interdit. » Elle passe. Et j'aime cette bienveillance, si vous voulez, de l'abeille qui ne, qui finalement passe sur ce qui la contrarie, n'accorde aucune importance à ce qui ne lui plaît pas et à ce dont elle ne peut rien faire. Mais dès qu'elle va trouver quelque chose de bon, là elle va s'arrêter, elle va le prendre, elle va le ramener chez elle et petit à petit se constituer son propre miel. Je crois que chaque chrétien devrait être comme ça et finalement aller puiser là où il peut, là où il veut, dans différentes sources qu'il connaît lui et qu'il va trouver, pour finalement se faire sa propre construction intellectuelle, pour se construire sa propre foi. Mais ce qui est vrai, c'est que pour ça, il faut sortir un peu de sa ruche. Bon, ça, je suis désolé. Il faut bien aller se promener, aller visiter, observer, découvrir, pour se faire son système personnel. Et c'est la même chose, d'ailleurs, dans les textes bibliques. Quand on lit la Bible, écoutez, lisez, vous allez survoler des milliers de versets, comme une abeille va survoler des milliers de fleurs dont elle ne fera rien, et tout à coup elle va trouver la fleur d'où elle va ramener une micro-goutte de miel, elle va le ramener chez elle. Et donc vous lisez des tas de versets et butinez dans les versets bibliques. De temps en temps, il y en a un qui ne changera pas votre vie, parce qu'une abeille ne fait pas un pot de miel entier sur une fleur, mais va ramener une goutte, et après goutte, sur les petits versets qui vous donnent une micro-goutte de quelque chose, vous vous nourrirez. Et enfin, puisque j'ai dit du bien de la réforme, je continuerai en disant que certains ont même justifié la réforme à partir du fonctionnement des ruches, puisque vous savez que les abeilles multiplient les colonies par essaimage, et qu'en fait l'essaimage est une très bonne chose, c'est-à-dire c'est une partie qui sort de la ruche mère pour en créer une autre, et que c'est comme ça que les abeilles survivent dans le monde. Et certains ont dit, ben écoutez, voilà, c'est la réforme. Et que la réforme, c'est une chance pour l'Église, puisque finalement ça a permis de créer une nouvelle colonie, peut-être plus vive, qui va se reconstruire autrement, et finalement c'est plus une chance d'avoir deux colonies que d'en avoir une seule. Bon, mais à propos de réforme, revenons à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est que dans la pensée réformée, ce qui est la base de notre pensée, c'est la Bible, et pas ce qu'a pu dire Clément d'Alexandrie, saint Augustin, Mandeville ou d'autres. Et donc dans la Bible, qu'en est-il? Dans la Bible, c'est assez simple et en même temps contrasté. Parce que l'abeille est vue comme un insecte qui produit du miel. Et le miel, vous le savez, dans la Bible, c'est l'image même de la douceur. C'est ce qui est doux. Et on nous dit que Dieu nous promet une terre extraordinaire, la terre promise, où coulera le lait et le miel. Pourquoi cette promesse? Eh bien parce que cette terre promise est l'image de la présence de Dieu, et que nous sommes invités à cheminer pour arriver à découvrir ce lieu qui n'est pas un lieu géographique, mais ce lieu intime, spirituel, qui est le lieu où l'on est avec Dieu. Et quand on est dans l'intimité de la présence de Dieu, alors coule en abondance le lait et le miel, c'est-à-dire une grande douceur. Et je crois effectivement que la présence de Dieu est à la fois pour nous une vraie nourriture dans notre vie, sans laquelle on risquerait de se dessécher. C'est une source d'énergie, de force, de courage pour agir. Et c'est aussi une nourriture infiniment douce et agréable. Donc oui, cette présence de Dieu est vraiment une des choses les plus belles qui puissent être dans notre vie, parce que ça nous donne tant de douceur, alors que nous sommes dans un monde où il y a tant de violence, tant de peur, tant de crainte, tant de haine, de jalousie, de médisance et de malfaisance. La présence de Dieu, c'est une source pour le croyant de lait et de miel. Cela dit, le miel ne tombe pas tout seul sur la tartine. Je reprends mon habit un peu moralisateur. Ça, je ne le trouve pas dans la Bible, mais c'est moi qui y pense. Je me dis, oui, le miel, c'est merveilleusement doux, mais en même temps, il ne coule pas tout seul sur la tartine. Il ne se trouve pas tout fait dans des pots en verre au supermarché. Le miel, je suis bien placé pour le savoir, il faut le récolter. Et ça, ça n'est pas commode. Et je dirais que c'est la même chose peut-être aussi pour la présence de Dieu. Certes, la foi est une chose merveilleuse et on ne peut que la désirer pour soi. Mais moi, je vais vous dire, la foi, ça ne s'achète pas en supermarché. Et si vous attendez dans votre fauteuil qu'elle vienne toute seule, peut-être qu'elle viendra, mais vous risquez toujours d'attendre. De même que si vous attendez le matin votre biscotte à la main qu'elle se mielle toute seule, ça ne se fera pas. Et donc oui, je le sais, moi, la foi est une belle chose, mais il faut une démarche personnelle, il faut une quête, et il faut se donner du mal, il faut travailler, et il faut aller chercher finalement quelque chose dans sa vie, et si on le veut découvrir cette douceur, il faut tout un cheminement pour essayer de le découvrir. Alors, où le trouver et où le chercher? Eh bien, il y a un indice dans l'Écriture. L'indice, c'est que ceux qui produisent le miel, c'est les abeilles, et l'abeille, en hébreu, ça se dit Déborah, ce qui est aussi un prénom féminin. Et Déborah, en hébreu, c'est le féminin de Dabar, la parole. Et donc, l'abeille, dans la Bible, c'est une parole. C'est la parole, par excellence, et peut-être même un peu la parole de Dieu. Et du coup, oui, c'est cela. Cette douceur extraordinaire, où peut-on la trouver? Eh bien, il faut la demander à la parole. C'est-à-dire que c'est en se soumettant finalement à la parole, en allant chercher dans la parole, qu'on peut trouver une source de foi. Et ça, je le crois. Si vraiment on fréquente l'Écriture, si on lit l'Évangile, si on lit les psaumes régulièrement, tous les matins un petit peu, ou si vraiment on se frotte à l'Évangile, on se frotte à l'Écriture, eh bien, il y a là une vraie source de douceur, et c'est comme ça que la foi peut nous rencontrer et venir dans notre vie. C'est en écoutant, en lisant, en méditant, en travaillant cette parole, que notre foi peut progressivement se constituer et grandir. Et cette parole, eh bien oui, elle est une toute petite bête. C'est ce que dit le livret de Proverbes. Il dit, vous savez, ne méprisez pas l'abeille parce qu'elle est toute petite, mais elle a une très grande gloire parce qu'en elle réside une immense sagesse. La sagesse dans la Bible, ce n'est pas juste le fait de ne pas faire de bêtises, c'est une véritable intelligence de la vie. Voilà. Et qu'en elle, il y a une vraie sagesse. Et donc, il ne faut pas mépriser ces petits grains de paroles qui sont dans l'Écriture, qui semblent a priori n'apporter rien, mais qui sont vraiment pleins de sagesse. Comme Jésus dira, ne méprisez pas le grain de moutarde qui est tout petit, mais qui en grandissant peut donner un arbre extraordinaire où vont se réfugier les oiseaux du ciel. Et l'autre chose, c'est que l'abeille, elle est très productive et très bien, mais une abeille, ça pique. Et que récolter du miel, c'est difficile, voire dangereux. Et là aussi, je pourrais continuer la parabole. Je dis oui. Pour aller se frotter à la parole, il faut être prêt à se frotter à quelque chose qui pique. La parole biblique n'est pas une parole confortable. Certes, moi je suis payé pour vous dire des choses confortables, donc je ne tire de la Bible que les bonnes paroles, en disant « Dieu vous aime, il vous pardonne, on est sous la grâce » et tout ça. Mais en même temps, la Bible, c'est une parole difficile, ardue, qui peut nous contrarier, et qui peut même, je dirais, nous prendre tellement à rebours qu'elle peut nous faire changer notre façon de concevoir notre vie. Et donc cette parole, elle est compliquée et difficile. Et pour cela, eh bien, il faut être prêt d'abord à l'inconfort. Et d'autre part, il faut de la méthode, il faut un équipement, il faut du courage, il faut une certaine formation, un certain savoir-faire, sinon on risque de ne rien trouver du tout. Et ça, je crois que c'est assez vrai aussi. C'est une grande question dans le christianisme, à savoir est-ce qu'on peut essayer de convertir les gens en leur donnant des Bibles sans aucune explication. Personnellement, j'en doute, parce que quand on lit la Bible sans préparation, sans instruction, sans mise en garde, on risque d'en être dégoûté et d'en être rebuté. Combien de personnes voulant lire la Bible commencent par la Genèse et abandonnent au bout de 3 chapitres de généalogie, ou d'autres qui lisent l'Évangile et abandonnent après une dizaine de miracles absolument abracadabrants en disant ce sont des histoires d'une autre époque et d'une autre culture. Donc effectivement, je crois que pour lire la Bible, comme pour aller prélever du miel dans une ruche, il est bon de se préparer, d'apprendre, de s'équiper et de se faire conseiller. Et puis, je vous disais, il faut faire cela parce que les abeilles, comme je vous disais, sont piquantes. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent dans la Bible, quand on parle des abeilles, c'est soit en référence à leur miel qui est doux et agréable, soit comme des insectes désagréables. Dans le psaume 118, au verset 12, le psalmiste dit « Les nations, donc mes ennemis, m'environnaient comme des abeilles, et au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. » Comme on aime bien les abeilles, certains traducteurs ont mis « guêpes » à la place, parce que les guêpes, on ne les aime pas. Mais non, c'est bien abeilles. L'image du païen, là, qui veut le poursuivre en lui voulant du mal. Et donc, je pense que ces abeilles sont effectivement, a priori, piquantes et dérangeantes. Mais l'idée que la parole puisse être piquante et dérangeante me convient tout à fait. Et c'est ce que l'on trouve en particulier dans la lutte de Jacob avec l'ange. Quand Jacob, vous savez, combat avec un ange, l'ange c'est la parole de Dieu, et on dit que toute la nuit il combat, et que finalement à la fin de la nuit, Jacob sort boiteux mais béni. Et c'est ça, c'est cette image que j'aime, effectivement ce combat avec le texte de l'Écriture, qui est un combat ardu et difficile, mais, et dont on sort parfois un peu boiteux mais béni. Et ça c'est une bonne chose, Il est assez curieux et paradoxal, je dirais, que ce mélange, dès qu'on parle de cette parole de Dieu, ce mélange de douceur et en même temps de violence, en quelque sorte, et qui me fait penser à ce passage de l'Apocalypse que je vous ai lu tout à l'heure, où justement l'ange dit à Jean, « Mange le livre, c'est-à-dire cette parole de Dieu, mets-la en toi. » Et l'ange dit, « Dans ta bouche, elle sera douce comme du miel, mais dans tes entrailles, elle mettra plein d'amertume. » Donc, voyez cette parole qui peut mettre de la douceur ou de l'amertume. Alors, je ne sais pas comment comprendre ce texte. Il y a deux façons de l'entendre. Soit on dit « ça va être amer » parce que c'est une parole qui est quand même pas facile, je reconnais. La parole biblique, c'est difficile. Lire la Bible, ça n'est pas commode du tout. C'est un vrai travail, c'est un vrai effort, quoi. C'est compliqué. Mais tu verras, dans ta bouche, c'est-à-dire pour ce qui est de la parole et du sens, ce sera d'une douceur merveilleuse. Ou alors, de dire, tu peux manger cette parole et elle te semblera très douce dans ta bouche, c'est-à-dire dans ce qui est en toi un être de parole. Et par contre, dans ton ventre, c'est-à-dire dans ce qui est en toi, les désirs les plus animaux et terrestres, ça va compliquer un peu les choses. Ça va être amer pour tes entrailles, pour ton ventre. Parce que c'est vrai qu'on est content d'entendre une parole de douceur, d'amour, de pardon et de grâce. Mais quand cette même parole nous dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi », là, je trouve ça moins drôle, moins doux, moins agréable, hein. Et quand on dit « va te réconcilier avec ton ennemi », ça me contrarie. Et donc oui, il y a beaucoup dans cette parole biblique, c'est vrai, quelque chose qui contrarie mon égoïsme naturel, mon désir animal, je dirais, fondamental. Et donc c'est une parole paradoxale, évidemment. Mais en même temps, je dois avouer que l'apiculture que je pratique... Finalement, si les abeilles ne piquaient pas, n'aurait aucun intérêt, je l'avoue. Si les abeilles ne piquaient pas, je ne pratiquerais pas l'apiculture. J'aime, je dirais, non seulement ce danger, et j'aime cette espèce d'ambiguïté, finalement, de la douceur et de la difficulté. Et j'aime cette parole qui est bonne, parce que non seulement elle nous nourrit, mais parce que la parole biblique, ce n'est pas une parole doucereuse. Et je n'ai pas trop tendance non plus à essayer de prêcher d'une façon doucereuse. J'aime que cette parole parfois aussi nous aiguillonne, voilà, et nous pique un peu. Et j'aime que cette parole nous mette en avant pour nous contraindre à agir avec intelligence, avec attention. Et finalement, j'aime cette dialectique qu'on trouve dans l'Écriture en général, qui est faite à la fois de douceur et de violence. Il y a ce sujet, si vous étiez là dimanche dernier, vous avez entendu la prédication de ma collègue Florence, qui a parlé de Déborah, donc un personnage de la Bible dont le nom veut dire l'abeille. Déborah, qui est une des rares prophétesses de la Bible, qui est la seule femme qui ait été juge en Israël, c'est-à-dire présidente, quoi. Et cette femme très, très contrasté aussi, qui a fait œuvre de violence. Il y a des choses qui sont très très violentes dans le règne de Déborah, puisqu'elle a même, je ne sais pas, sous son règne, elle ou je ne sais pas qui, transpercé la tête de quelqu'un d'autre avec une lance, comme une abeille qui pique. Mais en même temps, Déborah, l'abeille, a ramené la paix en Israël pour deux générations. Alors c'est cela, où est le juste? Finalement, je ne sais pas, entre la douceur pure, émolliente, qui à mon avis ne mène à rien, ou entre la violence pure qui ne fait que détruire et qui n'apporte rien. Et finalement, c'est un mélange des deux, et même dans notre vie nous apporte des piqûres et aussi du miel. Alors comment gérer la chose? Eh bien, je dirais pour ce qui est des piqûres, supportez-les. Voilà, on ne fait pas d'apiculture sans se faire piquer, c'est comme ça. Faut assumer. Donc, pour ce qui est des piqûres de la vie, bah, écoutez, supportez-les. Maintenant, on a le droit d'être intelligent. On peut quand même essayer de se protéger autant qu'on peut. Donc oui, protégez-vous autant que possible des piqûres de la vie, si c'est possible. Maintenant, on peut faire preuve d'intelligence, on peut essayer de se mettre à l'abri. Et ce n'est pas une faiblesse que d'éviter les situations où l'on sait que l'on sera malheureux, voilà. Mais cela dit, on ne peut pas tout empêcher, donc pour le reste, il faut l'assumer, gentiment. Et puis après, on peut voir les choses, positivement. Qu'est-ce que l'activité d'un apiculteur? Si vous le voyez négativement, vous direz, bah, c'est de se faire piquer, bon, c'est pas drôle, mais si vous dites, c'est de récolter du bon miel, on oublie la piqûre. Et donc, oui, je dirais ça, nourrissez-vous de ce qui est bon, de ce qui est plein de douceur, et dans la vie, il faut se nourrir de ce qui est bon, parce que ça fait supporter le reste. Et donc, dès qu'il y a une source de miel quelque part, eh bien, nourrissez-vous-en, et vous oublierez les piqûres de la vie. C'est une source de douceur, je vous ai dit où la trouver, vous rembobinez, et vous verrez, c'est dans l'Écriture elle-même que l'on trouve cette source de douceur, et à ce moment-là, vous pourrez en avoir tellement plein pour vous-même, que vous pourrez en redistribuer même aux autres. Et tenez, finalement, c'est vrai ça. Après tout, quand vous mangez le miel que j'ai prélevé pour vous, c'est moi qui me suis fait piquer à votre place. Et là, il y a un rôle, c'est peut-être pour ça que j'aime tant jouer à l'apiculteur, parce que finalement, l'apiculteur a un rôle un peu christique. Finalement, c'est lui qui va supporter les difficultés pour amener la douceur à ceux qui ne se donneront pas le mal d'avoir à s'y frotter. Et finalement, celui qui accepte de se faire piquer pour que les autres n'aient que la douceur, c'est un peu le Christ. Et donc je vais retirer tout ce que j'ai dit sur les violences de tout à l'heure, parce que je crois que Jésus, précisément, c'est celui qui vient nous apporter la douceur. Et lui, il a supporté, je dirais, toutes les douleurs du monde, supporté la souffrance, la passion et la mort, et il dit, écoutez, voilà, j'ai subi et moi je vous donne le meilleur. Donc il nous donne, il nous livre à domicile, je dirais, toute la grâce, toute la gentillesse, tout le pardon, toute la paix de Dieu. Et il est celui qui a fait sur lui-même cette démarche pour pouvoir nous l'offrir gratuitement. Donc non, il n'y a rien à payer. Juste d'ouvrir la porte à celui qui frappe et juste de prendre le miel que l'on nous donne, d'accepter le pain qui nous est tendu, de boire le verre d'eau qu'il nous offre et d'accepter simplement cette grâce qu'il nous offre. Mais dans tous les cas, il y a une grâce qui nous est offerte, et cette douceur extraordinaire, ce lait et ce miel de la terre promise, n'est pas pour nous chrétiens quelque chose de lointain qu'il faudrait arriver à obtenir en se perfectionnant, mais c'est quelque chose dans lequel Jésus lui-même nous plonge. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la terre promise, aujourd'hui en Christ coule en abondance le lait et le miel, abreuvez-vous à la source de la douceur et de la vie, Jésus vous l'offre. Amen.